peut se faire plaisir dans leur composition, en choisissant des matières premières précieuses, rares, exceptionnelles, etc. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va gaspiller tout ça avec des produits qui sont terminés en 15 jours ou 3 semaines. C'est l'inverse. On est sur des produits suffisamment riches, suffisamment denses et actifs et efficaces pour finalement durer 2-3 fois plus longtemps qu'un produit qui, lui, va contenir 60, 70, 80% d'eau.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Gavin qui a cofondé avec Christophe Fargier la marque Oppidum. L'approche radicale d'Oppidum va à l'encontre de tous les dogmes actuels. Rien n'est formaté, rien n'est marketé. L'inspiration émane de la matière brute et de savoir-faire ancestraux. La production n'est quasiment pas mécanisée. Ici, on s'inscrit dans le temps long, le respect du vivant, la sobriété, sans jamais déroger à la qualité. Cet épisode est un long voyage qui vous embarquera au cœur de la forêt amazonienne. Alors, attachez vos ceintures et à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Chantal.
Qui êtes-vous ?
Qui je suis ? Je suis Jean-Christophe Gavin. Je suis l'un des deux cofondateurs avec Christophe Fargier d'Oppidum, qui est une entreprise de production de produits de soins et une marque également. Nous sommes installés dans le sud-ouest de la France, ça s'entend peut-être légèrement, en Occitanie, pas très loin de Toulouse, au nord de Toulouse, au cœur d'un magnifique massif forestier qui s'appelle la forêt de Grésigne. J'ai une première vie professionnelle qui a été entièrement dédiée pendant 20-25 ans à la recherche universitaire. Je suis un ancien professeur d'université, enseignant-chercheur. Donc je me suis consacré à la recherche, aux étudiants, avec passion pendant toutes ces années. J'ai décidé de changer d'activité il y a quelques années, autour des années 2014-2015. Ouais. Et puis les choses se sont vraiment réalisées en 2018-2019 pour me consacrer aujourd'hui entièrement à Oppidum. Alors je m'y occupe encore de recherche, on se refait pas et tous les changements de vie se font dans une très grande continuité et révèlent plus les constantes que les ruptures. Ouais. Donc là c'est vraiment le cas, sauf que c'est dans un domaine beaucoup plus appliqué, moins théorique, moins abstrait, et c'est sans doute ce dont j'avais envie à ce moment-là de ma vie professionnelle. Donc je m'occupe essentiellement de formulation, de sourcing, de matières premières, tout ce qui touche à la production, la fabrication, les ateliers.
D'accord. Et quel a été le déclencheur d'Oppidum ?
Alors le déclencheur, il n'y en a pas qu'un. Je crois que c'est très, très caractéristique de l'histoire d'Oppidum. Sur de nombreux plans, on s'inscrit dans le temps long et en fait c'est un faisceau d'éléments qui nous ont amenés à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des envies très anciennes de travailler un jour ensemble avec Christophe, qui lui était dans un secteur très différent du mien. L'envie de travailler dans une activité manuelle et de vivre de ce que l'on fabrique, de proposer des choses, de les fabriquer, de les produire et de les proposer telles quelles à un public qui va aimer ou pas. On était fascinés aussi de toujours, de longue date, par l'univers des ateliers d'art, par les savoir-faire, les matières premières, l'envie de transformer dans le respect et la connaissance de ces matières ce qu'elles peuvent devenir, et leur donner une belle vie, une belle facture. Et proposer des choses de qualité dont on est sûr qu'on ne se moque pas des gens, dont on est sûr qu'il y a de la qualité dans chaque objet créé. Voilà, ça c'était des envies profondes, anciennes, dont on parle pendant des années et des années, sans savoir forcément dans quel sens ça va s'orienter et sous quelle forme ça va prendre corps. Et puis, il y a une ligne directrice qui fait qu'on a créé Oppidum, c'est la peau. C'est le soin de la peau. C'est une préoccupation qui était d'abord très personnelle et qui, pour nous, a longtemps été déconnectée d'un projet professionnel. Avec une recherche qu'on avait depuis longtemps, qui était de prendre soin de sa peau déjà sous la douche, c'est-à-dire au moment de la nettoyer. Ça peut paraître très, très anecdotique, mais il se trouve que moi, j'ai une peau qui évolue au cours de l'année. On n'est pas enfermé dans un type
c'est
de peau.
Clair,
et la peau vit des épisodes. Moi, elle a plutôt tendance à sécher pendant l'hiver. Et chaque fois, ce qu'on me proposait, c'était des soins qu'il fallait mettre après la douche. Et j'étais quand même assez étonné que l'attention ne soit jamais portée sur ce qui se passe déjà sous la douche
et
la façon dont on la lave. Comme si, en fait, on pouvait l'abîmer en se lavant du moment qu'on l'a réparé juste après. Et donc, cet étonnement nous a déjà porté à nous intéresser à d'autres savoir-faire et d'autres types de produits que les gels douches de supermarché, et notamment l'univers de la savonnerie. Et ça a été, sinon un déclencheur, en tout cas une brèche qu'on a largement pénétrée et qui a été très très prometteuse. On a rencontré dans la région où on habite une savonnière qui créait des produits qui nous convenaient très bien, qui un jour a décidé d'arrêter cette activité-là, parce que finalement tout le monde a envie de changer d'activité au bout de quelques années, y compris les savonnières. Et en fait, le fait qu'elle arrête a déclenché chez nous l'idée qu'il y avait peut-être une possibilité de réunir tout ce qu'on avait envie de faire, à la fois depuis longtemps et de façon plus immédiate. Et puis là où on était installé, il y avait un très grand bâtiment à aménager. En fait, on s'est installé dans une ancienne ferme, dans cette forêt de résine dont je parlais tout à l'heure. Et cette ferme avait tout un corps de bâtiments qui étaient des anciens ateliers, mais inutilisés, qui étaient tombés un petit peu en désuétude. Et on s'était toujours dit qu'un jour, la maison et les murs nous diraient ce qu'on pourrait en faire. Donc on n'était pas pressé de restaurer cette partie-là de la ferme. Et en réalité, parce qu'on a laissé faire le temps, parce qu'on a pris le temps pour que tous ces éléments se mettent en place, on s'est dit que ça pouvait être des ateliers qui allaient revivre, de replacer à nouveau un lieu de création et de transformation au cœur de ces bâtiments et par contre le faire sur une activité différente, nouvelle, et écrire peut-être aussi un nouveau chapitre de cette maison et de ces ateliers.
Ouais. Et alors, quelles sont les particularités des produits que vous créez ?
Alors, les particularités, la première, c'est sans doute qu'on travaille sans eau. Pour nous, c'est un choix de départ qui était très, très naturel, tellement naturel qu'il ne nous paraissait pas si hors du commun que cela. Alors, les savons, évidemment, à part, puisque eux ne peuvent être fabriqués qu'en utilisant de l'eau, et qu'il y a toujours une part résiduelle d'eau dans le savon, mais de toute façon, il s'utilise, lui, avec de l'eau, donc on est sur une typologie de produits très, très, très particulière. Par contre, tous les autres soins pour la peau que l'on fabrique, qu'il s'agisse de synergie d'huile, qu'il s'agisse de baume, qu'il s'agisse de sérum, ceux-là, on les fabrique d'abord sans eau. Ça nous permet de travailler sans conservateur, puisque ça veut dire qu'on travaille essentiellement avec des corps gras, des huiles et des beurres végétaux, qui sont conservateurs par nature. On le sait depuis la nuit des temps, on conserve énormément de choses avec l'huile. Donc ça veut dire que pour assurer la sécurité du produit, sa durée de vie, on a juste à gérer la question de l'oxydation, le rancissement, on veut le dire autrement. Mais ça, ça peut se gérer tout à fait par des ingrédients naturels, végétaux, voire biologiques. Donc sans eau, c'est d'abord la garantie de ne pas ajouter de conservateurs dans le produit et donc sur la peau. Ensuite, ça permet d'avoir des produits extrêmement concentrés. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter de texturants, de tensioactifs. Il n'y a pas une eau à transformer en crème ou en gel. On a une galénique et une texture qui tient aux matières végétales qu'on utilise. Donc, ça veut dire que ça permet de composer des produits dont chaque ingrédient est choisi pour son intérêt pour la peau, ouais. Et non pas pour son intérêt pour le produit. Donc ça, ça nous allait très bien et ça correspondait à notre envie proposer des produits vraiment d'exception, composés de manière radicale jusqu'au bout, orientés pour le soin pour la peau. Cette riche concentration, elle a aussi l'intérêt de permettre une utilisation très sobre de ces produits. Ça veut dire qu'on peut se faire plaisir dans leur composition en choisissant des matières premières précieuses, rares, exceptionnelles, etc. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va gaspiller tout ça avec des produits qui sont terminés en 15 jours ou 3 semaines. C'est l'inverse. On est sur des produits suffisamment riches, suffisamment denses et actifs et efficaces pour finalement durer 2-3 fois plus longtemps qu'un produit qui, lui, va contenir 60, 70, 80% d'eau. Donc cette sobriété, elle nous plaît. Et ce qui nous plaît plus encore, c'est de pouvoir l'allier avec le fait qu'on ne renonce pas à des belles matières, qu'on ne renonce pas à des belles textures et qu'on ne renonce pas à des belles compositions. Ce n'est pas une sobriété asséchante ou appauvrissante, mais c'est vraiment une sobriété qu'on essaye de mener de manière intelligente où on ne renonce pas au plaisir, mais en même temps, on fait attention à la façon dont les produits sont utilisés. Donc ça, c'est vraiment un axe vraiment très important. C'est pour nous une piste essentielle d'innovation. Alors, c'est une innovation qui regarde aussi vers ce qui a été fait pendant des centaines d'années. Hein, les produits de soins, les baumes, les onguents, etc., ont été pendant des années des produits sans eau. Et il y avait une culture pendant des siècles de l'utilisation des huiles essentielles pour le soin de la peau. Donc, il y a un plaisir de revenir à ça. Mais c'est une innovation parce qu'on est quand même en rupture un petit peu avec ce qui se fait dans la cosmétique conventionnelle où l'eau est un élément vraiment très très présent et en très grande quantité. Après, je dirais que l'autre caractéristique, c'est qu'on s'est spécialisé dans les matières végétales précieuses, y compris pour la savonnerie. Ouais. On utilise pas beaucoup de matières d'huile, par exemple, ou de beurre commun. Je crois qu'il n'y a que le tournesol qui a passé le tamis qu'on s'était fixé dès le début, parce qu'il a des propriétés qui nous intéressent, et encore, on ne l'utilise pas pour tous les savons. Par contre, on a fait des essais de formules en très grand nombre, en gros de 2015 jusqu'à 2018, et ces essais portaient justement sur l'intérêt des beurres et des huiles précieuses. Et notre conviction, après des dizaines et des dizaines d'essais, ça a été de conserver 8 premières formules où les huiles précieuses, les beurres précieux sont utilisés non pas comme des additifs qui viennent juste enrichir le produit, mais sont les éléments de base. C'est-à-dire que là aussi, on essaye de raisonner simplement. Si on trouve que ce sont des éléments très intéressants dans la composition, ben allons-y à fond. Utilisons-les comme des éléments de base et non pas seulement comme des éléments additionnels ou d'enrichissement. Donc ça veut dire que l'argan, le son de riz, l'amande douce, le karité, le copoazou, le mourou-mourou, le jojoba, etc., selon les différentes formules de savon qu'on va avoir par exemple, elles sont utilisées dans des quantités vraiment très très importantes. Ça change tout, ça change la texture, ça change la composition du savon, ça change la composition de sa glycérine, c'est-à-dire la partie émolliente qui est gardée par la peau, qui est absorbée par la peau et qui l'aide à reformer sa protection naturelle, sa protection hydrolipidique. C'est la même chose pour les soins visage que l'on propose, les huiles, les sérums, les baumes. On n'utilise pas de matière dénaturée, hydrogénée, etc. On utilise des matières végétales intégrale. Et tout notre travail, c'est de trouver les bonnes synergies, à la fois en termes d'efficacité et en termes de toucher, de texture, de pénétration, d'absorption par la peau et de compatibilité avec, avec les différents types de peau. Donc, je dirais que c'est cette ligne qui consiste à ne choisir que des matières végétales précieuses. Aujourd'hui, on travaille à peu près 80 matières végétales différentes, entre les huiles, les beurres, les huiles essentielles, les extraits de plantes. C'est quelque chose dont on a eu la conviction au départ. Et après, ça a été tout le plaisir du fabricant et du sourceur. C'est qu'on a découvert un univers encore plus riche que ce qu'on imaginait et de possibilités infinies. Et après, je dirais que l'autre caractéristique, c'est qu'on essaye de proposer des soins absolument sensoriels. On est convaincu que le plaisir est quelque chose d'important, qui doit être défendu, qui doit être promu même et revendiqué. Bien sûr, il y a l'efficacité, bien sûr, il y a les effets que l'on recherche pour la peau, mais il y a le plaisir, et j'ai envie de dire même tous les plaisirs, c'est-à-dire le plaisir de la texture, le plaisir olfactif au moment où on passe le produit. Ça ne veut pas dire qu'on a des soins parfumés avec des parfums qui durent toute la journée, mais enfin, on revendique quand même le fait de créer nos propres compositions parfumantes pour chacun de nos soins. Et ils ont des parfums de caractère. Ce ne sont pas des parfums standardisés qui cherchent à plaire à tout le monde. On prend le risque d'être clivant ou d'être déceptif sur une ligne dont la composition plairait peut-être pour la peau et un peu moins pour la senteur. Mais ça peut être aussi l'inverse, et puis on peut plaire sur tous les plans. Mais on a envie de renouer avec une cosmétique parfumée. Et là aussi, c'est une façon de renouer les fils avec des temps où les savonniers, les parfumeurs, les fabricants d'onguents et de baumes travaillaient ensemble, ouais, voire même étaient les mêmes personnes.
Tout à fait.
Et du coup, les savoirs des uns et des autres étaient complètement entrecroisés, ils s'enrichissaient les uns les autres, et ce n'étaient pas des univers séparés et cloisonnés. Donc une cosmétique parfumée, sensorielle, avec ces deux aspects, les textures et les parfums.
Et vous vous situez au-delà des standards du bio, je crois, hein.
Oui, alors c'est... là encore, ça fait partie des choses qui nous paraissaient évidentes au début et qui ensuite forme la charte d'Oppidum pour toutes les nouvelles créations à venir. Pour nous, ça n'avait pas de sens de faire des produits à moitié bio ou aux trois quarts bio. Soit on estime que c'est important à la fois pour les peaux qui reçoivent ces produits, qui les absorbent, d'avoir des produits à la plus grande innocuité possible, et que c'est important aussi pour les sols qui produisent les matières premières originelles, de ne pas être eux-mêmes appauvris ou détériorés. Et alors, si on pense ça, on va jusqu'au bout, et c'est l'intégralité des ingrédients qui doivent répondre à cette charte. Soit on trouve que ça n'est qu'un peu important, et du coup, là, pour nous, ça paraît compliqué de déterminer à quel taux de bio il faut être. Donc, notre charte, c'est des produits qui sont 100% naturels, qui sont certifiés bio, selon le label Cosmos Organique, et effectivement, on va au-delà des standards, puisque notre règle, c'est de faire en sorte que toute matière végétale soit de qualité biologique.
Okay.
Après, le taux total du produit peut légèrement baisser parce que lorsqu'il y a des argiles, par exemple, c'est un minéral et les minéraux ne sont jamais qualifiés de bio. Ou on peut avoir des matières qui ont été obtenues en récolte sauvage dans la réglementation européenne cosmétique, pas seulement cosmétique d'ailleurs, les matières sauvages ne sont pas considérées comme bio puisqu'elles ne sont pas issues de l'agriculture, elles sont sauvages et donc elles peuvent encore moins être considérées comme bio alors qu'elles proviennent de terres où il n'y a eu absolument aucun entrant et où on est avant le bio en réalité.
Oui,
en termes.
Quand on avait préparé cette interview, vous m'avez parlé de vos sources d'inspiration. Comment vous décidez de lancer un nouveau produit, enfin en tout cas de formuler, parce qu'avant de lancer, il faut formuler.
Oui, C'est beaucoup les... Alors, les sources d'inspiration, elles sont nombreuses. C'est beaucoup les matières premières qui vont nous inspirer. Il y a toujours une finalité, évidemment. Mais comme je vous le disais, effectivement, on n'a pas de plan marketing, on n'a pas d'études de marché. C'est peut-être pas très raisonnable et il faudrait pas que tout le monde écoute ça. Mais on procède quand même selon les envies de création. Après, il y a des finalités quand même. On ne fait pas des produits pour être exposés dans des musées. On fait des produits qui sont faits pour être utilisés. D'accord. Donc, on cherche quand même à connaître les besoins et les envies de celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés et de les utiliser. Mais ça, c'est pour qualifier le type de produit qu'on va faire. Qu'on fait des produits visage, est-ce qu'on va partir sur des produits corps, qu'on ne fait pas encore aujourd'hui à part le savon de soin, etc., etc. Par contre, une fois qu'on a déterminé quel type de produit on avait envie de faire, là, vraiment, je dirais que notre inspiration première, ce qui nous guide pendant des mois et des mois de recherche et de développement, ce sont les matières premières. Donc c'est très vaste, hein, parce que les matières premières, ça, là on va complètement rentrer dedans, on va lire tout ce qu'on peut en termes d'études scientifiques, d'études historiques aussi, parce que suivre l'histoire des matières végétales, c'est absolument passionnant.
Ouais, c'est
il y a
clair.
Des travaux de botanistes, d'ethnobotanistes, d'historiens, etc., qui apprennent énormément de choses, qui ne vont pas être sur le plan forcément d'une science de la biologie, de la biochimie, du produit, etc. Ouais. Mais tout ça est très complémentaire des études scientifiques qui, elles, pour le coup, vont être importantes pour déterminer aussi les ingrédients qu'on utilisera pour leurs effets, pour la peau et le soin de la peau. Mais je dirais que c'est vraiment les matières premières. L'envie de travailler avec certaines matières, cette envie, elle est nourrie, comme je vous disais, par l'histoire, par les senteurs, par des associations qui existent déjà ou d'autres qui n'existent pas et qu'on a envie d'essayer, par les gens qui produisent ces matières ou qui les récoltent. Voilà, c'est nourri de rencontres, c'est nourri de... Voilà, c'est pas... C'est l'inverse d'une notice et puis d'une étude de marché.
Oui,
en gros.
Ouais. Et alors, beaucoup prônent le Made in France, le local, mais pas vous. Donc, c'est quand même assez rare par les temps qui courent. Hein.
Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle des produits eux-mêmes, ils sont absolument Made in France et ils sont intégralement fabriqués dans nos ateliers. Aujourd'hui, en plus de Christophe et moi-même, nous sommes cinq. Il y a trois collaborateurs, employés qui nous ont rejoints depuis le début de l'aventure. Et les ateliers sont vraiment le cœur d'Oppidum. Tout est organisé autour des ateliers. Ils sont ouverts au public, on peut venir les visiter et on s'en rend compte, ne serait-ce que par l'organisation spatiale de ces ateliers. Tout est fait intégralement dans le Tarn, chez Oppidum, le sourcing, la formulation, la production, le conditionnement, l'expédition. Local et Made in France, ça concerne aussi une bonne partie de notre packaging. Par exemple, tout ce qui est imprimé, tout notre packaging papier, carton, est réalisé à 17 km de nos ateliers par un imprimeur local, sachant que 17 km, c'est le premier semblant de ville qu'on va trouver une fois qu'on quitte le lieu. Là où on est beaucoup moins local, effectivement, et où on l'assume complètement, c'est sur le choix des matières végétales. On a fait un autre choix que de prendre des matières végétales qui auraient toutes poussé en France et auraient été transformées en France. Nous, on les choisit là où elles ont justement une histoire, là où il y a un savoir-faire. On est très sensible au fait qu'il y a des savoir-faire un peu partout dans le monde. Donc, on n'a pas un discours protectionniste du savoir-faire. Et quand on est passionné des savoir-faire, on l'est d'où qu'ils viennent et peu importe par qui ils sont réalisés. Et ensuite, les végétaux ne poussent pas de manière égale sur toutes les surfaces du globe. Donc, selon ce qu'on va vouloir utiliser, si je vous parle de l'argan marocain, on comprendra assez vite qu'il sera difficile à trouver au fin fond des forêts tarnaises. Pareil pour le karité, pareil. Donc là, ce à quoi on va faire attention, c'est le circuit court. Et c'est notre façon d'équilibrer les choses. Alors évidemment, il y a toujours une distance plus importante que si on s'était spécialisé que dans des matières végétales locales. Mais on a décidé de travailler en circuit court, c'est-à-dire avec le nombre d'intermédiaires le plus réduit possible entre le producteur et nous, afin qu'il y ait le moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Ça veut dire que pour une bonne partie de nos matières végétales, on s'approvisionne directement chez le producteur lui-même. Là, il n'y a carrément pas d'intermédiaire. Et puis pour une autre partie, il y a un intermédiaire. Voilà, qui sert de négociant, parce qu'on n'a pas encore la capacité d'aller voir tous les producteurs. Comme j'imagine, je vous le disais, on travaille avec 80 matières végétales. C'est trop tôt, on est trop petit, trop peu nombreux pour se permettre d'aller sur chaque lieu de production. Donc là, c'est pas possible. Mais on le fait quand même, et surtout quand ça concerne des productions sensibles ou des lieux sensibles. C'est le cas de la forêt amazonienne. Et on en parlera peut-être.
On peut en parler.
Voilà. Où on s'est rendu en juin 2019, précisément pour rencontrer des producteurs ou des récoltants de matières premières végétales rares avec lesquelles on rêvait de travailler, qu'on avait envie de proposer à nos clients et aux utilisatrices de nos produits, mais en faisant très attention, évidemment, à leurs conditions de production, à leurs conditions d'échange, à leurs conditions de commercialisation. Et donc, pour nous, la meilleure façon, ou la première, en tout cas, façon de faire attention, c'était de se rendre sur place et de comprendre sur place, concrètement, en discutant avec les producteurs, en discutant avec les récoltants, de leurs enjeux, de leur façon de travailler, en voyant aussi ça sur place. Pas comme des gens qui contrôlent ou qui viennent inspecter, ouais, parce que ça se fait au contraire avec beaucoup de modestie, beaucoup de doutes aussi. Mais c'est d'abord pour s'instruire, d'abord pour apprendre. Et puis après, une fois qu'on comprend, on sait dans quel cadre il est possible d'utiliser des matières qui viennent de si loin et qui viennent de terre aussi sensibles et de peuples qui sont parfois eux-mêmes très, très fragilisés.
Ouais. Et alors la ligne à base de résine qui s'appelle la sève des arbres, oui. Vous a demandé un long développement, je crois. Pourquoi ? Quelles étaient les contraintes ? En dehors du fait que ces résines viennent de la forêt amazonienne.
Alors c'est vrai que ça a été un développement assez long. Je crois que du premier jour de la première idée jusqu'au jour où la ligne a pu sortir, il s'est écoulé entre 20 et 23 mois. C'est une parfaite illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on s'inscrit dans le temps long. Vous savez, quand vous êtes une manufacture locale comme nous, tout repose sur le temps et les gens. Tout notre travail, c'est ça. C'est un travail personnel, manuel, sur place, et en prenant son temps à tous les niveaux, et y compris au niveau de la formulation et de l'élaboration des produits. Donc ça, c'est le parfait exemple du temps qu'on s'accorde pour réaliser toute une ligne de produits telle qu'on imagine qu'elle doit être faite. C'est-à-dire en prenant d'abord le temps la recherche documentaire, bibliographique, recherche scientifique. Nous, on voulait travailler avec des résines. Ça, c'était le point de départ.
Pourquoi les résines en particulier ?
Alors, pourquoi les résines ? Parce que d'abord, elles nous fascinaient dans leur propriété naturelle dans l'arbre. C'est une protection que produit l'arbre lorsqu'il est blessé ou lorsqu'il est attaqué. qui nous a toujours fascinés, parce qu'on vit sans doute au milieu des, oui. Des arbres déjà, donc on a de quoi les observer et d'observer leur résilience, d'observer leur façon de se protéger d'une multitude d'attaques et d'agressions. La résine dans l'arbre, elle a au moins deux fonctions. En étant odoriférante, elle éloigne les insectes qui pourraient venir contribuer à le rendre malade et à l'affaiblir. Alors, ce sont des odeurs très désagréables pour les insectes. Il se trouve que pour le nez humain, ce sont de très belles odeurs. La myrrhe, le benjoin, l'encens, le labdanum, sont toutes issues de résine d'arbre. Le deuxième intérêt, et sont utilisés en parfumerie depuis la nuit des temps.
Ouais.
Donc déjà, il y a aussi ça qui quand même aussi participe de la fascination. Mais après, là où on entre davantage dans le domaine du soin de la peau, c'est que dans l'arbre, la résine est un activateur de réparation, de régénération des cellules nécessaires à la vie de l'arbre, à sa cicatrisation. Et donc, on avait une question de départ de se demander si, bien sûr, on n'est pas des arbres, mais enfin, est-ce que dans la vie cellulaire, appliquée à la peau humaine, est-ce que ces résines pouvaient avoir un intérêt autre que celui qu'on connaît en parfumerie ?
Ouais.
Et bon, ben là, une fois qu'on s'est posé cette question, ça a été des mois de lecture absolument passionnante,
ouais.
Parce que ce sont des matières extrêmement documentées. Mm. Et en fait, là aussi, on a ouvert une porte dont on ne soupçonnait pas tout ce qu'il y avait de l'autre côté. Les universités du monde entier font des recherches sur les résines. On les compare, notamment pour leur pouvoir cicatrisant, au miel, par exemple, quand on veut faire des comparaisons entre produits naturels, ou on les compare, au contraire, à des cicatrisants issus de la recherche pharmaceutique, quand on veut faire des comparaisons entre cicatrisants d'origine naturelle et cicatrisants de synthèse. Et donc, il y a une richesse tout à fait exploitable de documentation sur ces résines. De fil en aiguille, on découvre les premières, puis on en découvre d'autres. Certaines sont présentes ici, faciles d'accès. D'autres, au contraire, et c'est le cas du sang de dragon, ne sont pas facilement accessibles. Moi, c'était une résine qui me faisait complètement fantasmer, je dois l'avouer, parce qu'elle a une histoire vraiment... incroyable, elle a existé en Europe, elle a disparu d'Europe, à croire que les arbres ont voyagé.
Ouais.
Avec les arbres, les savoirs qu'on pouvait tirer des arbres. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que par-delà les siècles, les hommes, à des milliers de kilomètres et à des siècles de distance, ont retrouvé des usages quasiment identiques à partir de ces éléments naturels. C'est-à-dire sans qu'il y ait eu une transmission académique, écrite, livresque, eh bien, on a su s'adapter, découvrir, comprendre la nature qui nous entoure et en retirer des richesses. Et ça, je trouve que c'est absolument fascinant, parce que ça veut quand même dire que aujourd'hui, parfois, on a tendance à opposer l'homme et la nature. Alors, on a raison quand l'homme la détruit, mais en même temps, il a aussi su vivre avec elle. Et je pense que les fils ne sont pas rompus, les fils ne sont pas coupés. Il y a des savoirs qui existent comme ça, qui sont transmis, qu'on peut renouveler, qu'on peut utiliser d'une manière moderne, respectueuse évidemment, sobre, mais ils existent et on peut en faire quelque chose de positif. Il suffit de se demander toujours qu'est-ce qu'on ajoute au monde, voilà, quand on crée un produit. Et là, c'est le cas. Et donc, ces résines, de fil en aiguille, nous ont donné envie de partir sur les lieux, leurs lieux actuels de production. Et puis après, c'est comme pour toutes les activités, il faut un peu de chance, il faut des hasards. des amis qui vivent au Pérou. Le hasard d'une demande juste avant qu'ils partent prendre l'avion pour retourner à Lima, où on leur dit tiens, mais quand vous reviendrez, si vous avez des huiles ou des matières qu'on connaît pas bien ici, ramenez-nous en quelques extraits, et comme ça nous permettra d'explorer un peu plus ce qu'on connaît pas. Et puis, voilà, 2 mois plus tard, dans les valises des amis, il y a différentes fioles, il y a des huiles qu'on retrouve aujourd'hui dans la gamme. Mmh. Et parmi ça, il y a la résine de sang de dragon. Et là, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, avec tout ce que j'ai lu il y a 3 mois. Enfin, voilà, on a l'impression que les choses s'imbriquent, qu'elles prennent du sens, qu'on a posé des petits cailloux qui, au départ, paraissent très anarchique, pas très pensé, etc. Mais en fait, les choses s'alignent. Ouais. Et elles prennent du sens, elles trouvent leur sens, en tout cas. Et tout ça, ça prend du temps. Si on est pressé d'avoir un résultat, si on a un plan produit, si on a un plan commercial, ça donne pas la liberté de laisser venir les choses aussi. Donc une fois qu'on a eu les matières en main ici en France, ramenées par les amis. On a pu faire des premiers essais, on a pu compléter nos lectures, etc. Et puis, ce sont d'autres hasards. L'histoire est longue, faut m'arrêter, parce que
non, mais c'est
ça va être terrible. Mais d'autres hasards, à Paris cette fois-ci, dans un salon d'ingrédients, donc un salon professionnel, ce qu'il y a de moins glamour sans doute au monde, un salon professionnel d'ingrédients cosmétiques où on était très très déçus parce qu'on cherchait des stands très... où on cherchait que des ingrédients très naturels, etc.
Ouais,
et non, c'était pas le
bon endroit.
C'était pas vraiment le bon endroit. Disons qu'on avait vite terminé notre tour du salon en quelques stands. Mais on a trouvé des choses parce que en fait, on n'a pas besoin de rencontrer 10 000 personnes. Au milieu de 10 000 personnes, si on trouve les 2-3 bonnes qui conviennent, on est riche de rencontres pour longtemps. Ça a été le cas et il se trouve qu'il y avait un tout petit stand de producteurs péruviens. Et donc, on est allé les voir pour parler avec eux de Sachainchi, de Sangre de Grado, de différentes matières qu'on avait en tête à ce moment-là. Et il se trouve que dans les allées du salon, juste derrière nous, il y a une représentante du ministère du tourisme ou de l'économie, je ne sais plus trop, qui nous entend parler de ces matières et qui était intriguée, qui était péruvienne, qui vient nous voir pour nous demander si on connaissait vraiment ces matières et pourquoi on en parlait, pourquoi on les recherchait. Donc on lui a expliqué le début de notre histoire. Nous, on en était encore juste aux hypothèses de création. Et elle nous a invités à Lima. Elle nous a invités à une rencontre avec des producteurs. Et alors là, l'histoire s'est accélérée.
Ah ouais, j'imagine.
On est parti 2-3 mois plus tard, un petit peu plus, 6 mois plus tard à Lima. On avait fait de notre côté, avec ce qu'on avait dans nos ateliers, déjà des premières expériences de baume, de savon, etc. Donc on savait à peu près vers quoi on allait aller. On savait à quoi allait servir cette ligne, parce qu'elle avait vraiment des actifs très, 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 très spécifiques. Mais il restait quand même à trouver les matières à utiliser. Donc on est parti au mois de juin 2019. Dans un voyage qui s'est en fait organisé en 2 temps. À Lima, on a rencontré une vingtaine de producteurs de matières végétales, ce qui nous a permis ensuite d'aller visiter les lieux de production ou les lieux de transformation d'une partie d'entre eux, ce qui nous intéressait. Et puis, on a voulu aller quand même aux sources de ce sang de grado, de ce sang de dragon, qui se trouvait en Amazonie péruvienne, au nord du Pérou et au sud de l'Équateur, à Iquitos, pour rencontrer les représentants de la communauté qui le récolte. On n'a pas pu aller exactement sur les terres en question, parce qu'elles sont protégées,
d'accord,
parce que ça se prépare plus longtemps à l'avance. Oui. parce que vous n'arrivez pas là-bas non plus
en conquérant.
Vous devez d'abord expliquer que votre intention, ça n'est pas de piller les sols et les sous-sols de la forêt amazonienne. Quand en plus vous êtes le représentant d'une marque qui commence à peine à exister, c'est-à-dire qui est absolument inconnue, il faut vraiment montrer patte blanche parce que vous êtes presque suspect. On vous prend pour un gringo américain qui vient chercher du nickel ou je ne sais quel autre minerai. Donc la rencontre à Iquitos avec les représentants de la communauté Achuar a commencé d'une manière très très intimidante. C'était très très froid. On sentait que c'est pas anodin d'aller chercher de telles matières, même sur place, qu'il faut des vraies raisons, qu'il faut en avoir aussi une vraie belle utilisation derrière. Et je dirais que ça a pris bien une heure et demie, deux heures, avant que la communauté en question soit rassurés sur nos intentions et sur ce qu'on était en train de faire et sur nos projets. Et juste pour l'anecdote, ce qui a détendu, mais alors de manière hyper franche, nette, en un instant, la rencontre, c'est lorsqu'on a arrêté en fait, de parler de produits, de cosmétiques, de produits de soins, d'oppidum, etc., de commerce aussi, et lorsqu'ils nous ont fait parler sur le lieu où on était. Donc, pas à Paris. Hein. Et donc, on a commencé à expliquer le sud de la France, etc., dans quel cadre on vivait. Et puis, la façon la plus simple d'expliquer, c'était de parler de la forêt dans laquelle on est, qui est une des plus anciennes forêts du sud-ouest de la France, qui est une très grande forêt de chênes et de charmes, et qui a une très, très belle histoire, qui a été une forêt habitée pendant très longtemps. Donc, il y a des métiers qui sont très liés à la forêt, des métiers d'art comme les céramistes, les verriers, tous ceux qui utilisent la cendre ou le bois. Mais du coup, si on utilise la cendre, c'est aussi les lessiviers, les fabricants de savon qui se faisaient livrer les cendres des ateliers de forgerons, etc., par la Garonne qui passe pas très loin du côté de Montauban. À quelques kilomètres. Bref, donc on commence à parler de cette forêt, à montrer exactement où on était, le type de village ou de hameau même où on se trouve. Et en fait, je sais pas, la façon dont on a parlé de cette forêt, le fait, je sais pas, d'en connaître son histoire, le lien qu'elle a aussi avec les communautés habitantes.
Ouais, voilà.
Tout d'un coup, ça a totalement déglacer l'atmosphère. On avait deux interlocuteurs face à nous et l'un des deux s'est levé en disant « Je reviens, je vais chercher les échantillons de Sangre de Grado. » Et elle est partie, elle est revenue une heure et demie après. Donc c'est dire, si elle n'avait pas prévu ça, juste à l'entrée du lieu de rendez-vous. Mais à partir de là, bon, on mange ensemble, donc là on était
vous étiez acceptés,
on pouvait et du coup les discussions après ont été totalement différentes et c'était très 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 riche parce que nous on y allait déjà avec certaines convictions sur l'intérêt de d'avoir un commerce raisonnable comme ça, faire trade avec des productions amazoniennes. Mais eux nous ont quand même beaucoup plus précisé à quel point c'était important pour eux.
Ouais,
et ça vient parfois un peu ébranler les convictions d'Européens un peu ethnocentrés qu'on peut avoir en partant. En prenant l'avion.
Bien sûr.
Ça rejoint un peu votre question aussi de tout à l'heure sur le local. Qu'est-ce qui est important si on parle avec eux, leur donner la capacité de montrer l'intérêt d'une production végétale, c'est-à-dire qu'ils valorisent le sol, pour pas qu'on s'intéresse au sous-sol, parce que les sous-sols là-bas sont très très riches.
C'est ça.
Mais le problème, c'est que si on les exploite, on détruit tout le reste.
Tout.
même si on achète très peu de, on achète des toutes petites quantités. Je dis pas du tout que ça on n'est pas les sauveurs de l'Amazonie avec quelques litres de San Redegrado qu'on va acheter. Mais ils voient ça comme un moyen aussi, entre autres, de faire parler de la matière, de faire parler des populations amérindiennes, autochtones, récoltantes, de parler aussi justement de l'intérêt des sols et de la nécessité de les sauvegarder, de ne pas les déplanter, de ne pas les ouvrir, etc. etc.
C'est ça.
Donc, c'était un voyage initiatique, pas seulement pour des matières premières, à titre personnel. Alors après, quand on revient et qu'on continue le développement de la ligne, elle est riche aussi de tout ça. Ça force le respect des matières, parce qu'on sait exactement qui y a derrière, ce qu'il y a derrière. Et il y a un vrai plaisir, il y a une satisfaction à l'imaginer, à la produire, à la fabriquer, et qui passe entre les mains de tout le monde dans les ateliers. C'est-à-dire, Christophe et moi, on s'est déplacés sur place, mais ce même respect et ce sentiment d'être avec des choses rares, on l'a tous, et à chaque stade de la production.
Et justement, vous êtes vraiment dans une production à taille humaine.
Oui, notre idée, c'est d'être une manufacture avec tout ce que le terme a de beau, c'est-à-dire le fait de fabriquer à la main. C'est ça que ça signifie d'abord étymologiquement. Et ça guide beaucoup de choses. Une fois que vous décidez que la main va être l'instrument principal, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y aura pas des machines. Pour l'instant, on n'en a pas. On arrive à travailler sans aucune machine.
On fait tout à la main.
On fait tout à la main. On conditionne nous-mêmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on parle des savons, on les découpe nous-mêmes et à la main. Ils sont fabriqués évidemment à la main, hein, process de saponification à froid, hein, on n'est pas avec des bondillons qui passent dans une extrudeuse. Donc pour l'instant, il n'y a quasiment pas de mécanisation. Je crois que la seule machine qui existe, c'est un lave-vaisselle. on n'a pas été beaucoup plus loin.
Ouais,
donc ça viendra. Oui, c'est déjà pas mal, parce qu'on préfère la vaisselle à la main, ça personne n'a voulu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est anti-machine ou anti-mécanisation, mais on est hyper attentif à ce que l'on mécanisera si on doit mécaniser. La main, c'est un œil. Et la main du travailleur manuel, chez nous, c'est l'œil qui vérifie pièce par pièce, parce que chaque pièce passe entre les mains de chaque employé. Et les nôtres également. Moi, je suis à la production régulièrement, toute la semaine. C'est parce qu'on le fait de nos mains qu'on a l'œil qui vérifie la qualité, le process, la validité, la conformité, la bonne facture de chaque étape de la fabrication. Donc pour nous, elle est essentielle, et c'est pour ça que ce mot de manufacture, je pense, qualifie ou désigne le mieux ce qu'est notre projet. Pour l'instant, on est encore une toute petite entreprise. Ouais. C'est presque présomptueux de dire qu'on est une manufacture, mais on se vit comme ça, et c'est important de se vivre comme ça dès le début pour grandir comme ça, et pas pour avoir à rectifier le tir parce qu'en cours de route, on se serait un peu perdu. Donc ça veut dire qu'on peut augmenter notre capacité de production. Ça fait partie des questions importantes. Mais on est dans cet espace vraiment primordial, important, où on cherche à concilier toutes les origines artisanales, tous les savoir-faire d'excellence, les savoir-faire manuels qui concernent l'ensemble de nos métiers, savonnerie, parfumerie, cosmétique, et d'un autre côté, la capacité à produire dans une quantité suffisante pour pas être seulement un artisan seul dans son atelier ou dans sa boutique. Donc c'est un équilibre permanent. Alors l'équilibre, ça se réévalue au jour le jour. Hein. C'est pas un état permanent obtenu une fois pour toutes. Donc c'est, ça veut dire que là aussi, c'est parce qu'on prend le temps que pour l'instant on arrive à grandir sans mettre l'équilibre en péril. Parce qu'à chaque fois qu'on va par exemple recruter, on va se poser la question de savoir comment le faire pour rester conforme à nos principes de départ. Comment rester à 5 comme on était à 4, mais aussi comment on était à 3, puis comment on était à 2 au départ. Le but, c'est que, on s'imagine bien être au final 10, 12, peut-être 15 personnes. Ouais. Mais à chaque étape, il faudra vérifier ça. Mais ça vaut aussi côté client. Comment accepter des nouveaux clients sans que ça nous oblige à pas trahir, c'est pas une question de fidélité, mais ne pas abîmer.
Ouais.
Oui, voilà, ne pas s'éloigner de nos principes de départ, nos principes directeurs, et garder la capacité à assurer cette qualité qui est au cœur du projet. Ouais. On a envie de faire des bons produits et ça ne doit pas nous quitter.
Oui, parce qu'il y a des challenges qui vous attendent, hein, je crois.
Oui.
Vous m'aviez parlé de Nocibé.
Oui.
Donc ça veut dire augmenter sa capacité de production.
Oui. Alors aujourd'hui, on y arrive. C'est Nocibé nous a intégrés sur sa plateforme internet, nocibé.fr. Donc ça, on en est très très fiers parce que ça fait partie de nos convictions. On pense que là aussi, hein, c'est la logique du décloisonnement hein, qui est très propre à l'ensemble de nos démarches, réunir des univers qu'on a longtemps séparés. Nocibé fait partie des grands distributeurs des produits de cosmétiques et de parfumerie. Ils viennent de créer tout un corner, toute une sélection qu'ils appellent la beauté engagée, c'est-à-dire de marques qu'ils sélectionnent non seulement parce qu'elles sont efficaces, mais aussi parce qu'elles sont naturelles et biologiques. Et on est évidemment très très heureux de faire partie de ce tournant qui, selon nous, fait partie des tournants qui s'imposent, ou des virages qui s'imposent à tous les grands de la distribution. Donc, comment rester une marque de niche tout en étant accessible? Voilà, ça répond à tout ça. Ça veut dire aussi que tout le monde évolue. J'imagine que créer une sélection beauté engagée, c'est un véritable changement culturel.
Bien sûr.
Pour des acheteuses ou pour des acheteurs.
C'est clair.
De telles entreprises. Ils sont habitués à des grands de la cosmétique, ils sont habitués à des volumes, ils sont habitués à des logistiques, etc. S'adresser à des marques comme les nôtres, ça impose de leur part de s'adresser d'une autre manière. On n'a pas des quais qui attendent des camions et des palettes tous les matins pour inonder tous les...
Ouais, voilà.
Donc ça c'est... Pour moi, ça fait partie des signes qui sont très, très, très positifs et qui sont encourageants. Nous, côté producteurs, l'effort qu'on doit faire, c'est de faire en sorte... De produire effectivement en volume suffisant, mais toujours à l'échelle des conditions qui sont nécessaires pour qu'on travaille selon les principes de qualité que j'indiquais auparavant. Et ça, c'est faisable. On est au début de l'aventure.
Et vous y veillez, en tout cas.
On y veille, ça c'est certain. Mais on n'a pas le choix.
Ouais.
On n'a pas le choix. Comme je vous disais tout à l'heure, les ateliers, nous, ils sont au centre de tous les espaces de travail. Et on se voit tous, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les ateliers voient ceux qui sont
au développement.
D'abord, on n'est pas nombreux, donc
oui,
c'est facile de tous se
sûr.
Voir. On prend tous le café ensemble le matin à 9h. Donc, il n'y a pas de sujet...
C'est très horizontal.
C'est très horizontal et il n'y a pas de sujet inconnu pour les uns ou pour les autres.
Ouais, d'accord.
Dans les ateliers, on a conscience des difficultés, des enjeux du commerce. Et quand on est sur des sujets de commerce... On sait au centimètre près tout ce qui se passe dans les ateliers, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui fait que toutes ces questions d'échelle ou de volume, c'est un quotidien assez naturel. Il n'y a pas besoin de faire des réunions pour se dire « tiens, on est capable de quoi ?» ou « on est incapable de quoi ?» On le sait au jour le jour et ça évolue. Il y a des réponses que je fais aujourd'hui que je n'aurais peut-être pas faites il y a 2 ans parce qu'on était encore plus petit, puis on était fermé, surtout avec le Covid.
Ah oui,
mais on était plus petit, on avait. Voilà. Et j'imagine que dans 2 ans, on aura géré des changements d'échelle, mais d'une manière, j'ai envie de dire, qui est assez naturelle parce que c'est tous les jours que c'est ces questions sont présentes.
Bien sûr, ouais,
elles sont pas un problème, elles sont la vie même de l'entreprise.
De l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire oppidum ?
Oppidum, alors oppidum, c'est un terme d'urbanisme presque, qui est assez surprenant pour une ligne de produits de soins. Les oppidums, c'était des formes de communautés d'habitants celtiques et puis ensuite romaines. Qui se réunissaient dans des places fortes, dans des places, des forteresses, souvent sur des lieux assez élevés, des villages perchés, des citadelles. Alors, c'est exactement le village de Pucelcy auquel nous sommes rattachés, mais c'est surtout dans la forêt dont je vous parlais, il y a de très nombreux oppidums anciens et de l'époque celtique. Alors, c'est un premier clin d'œil d'abord au village, de s'appeler oppidum. C'est une façon de désigner ce village perché qui domine la vallée de l'Avère d'un côté et qui est adossé à la forêt de la Grésigne de l'autre. Si on va un tout petit peu plus loin, au-delà du clin d'œil, l'idée c'est de revenir sur cette idée à la fois de communauté d'habitants, vivre ensemble, et sur l'idée de protection, c'est-à-dire des habitants qui se mettent ensemble pour se protéger. Alors cette fois-ci, non pas comme à l'époque romaine ou à l'époque médiévale même, où on se protégeait par les armes et où on défendait les habitants de la vallée par des places fortes militaires. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, la protection, elle doit inclure ensemble les hommes et la nature et qu'il y a des nouveaux oppidums à créer, des oppidums du XXIe siècle, qui doivent se penser avec d'autres outils, d'autres schémas mentaux, productifs, avec d'autres objets, et que la protection de l'homme ne va pas sans celle de la nature. Et là-dedans, il y a évidemment la question plus spécifique pour la cosmétique, de la protection de la peau, qui est un organe absolument fabuleux, qui parmi tout ce qui nous définit occupe une place quand même très très particulière, et c'est à la fois un objet de contact, un objet de barrière aussi. Enfin, on sait très bien que la peau a des fonctions multiples et des fonctions contraires, et ça nous plaît aussi beaucoup, c'est-à-dire ne pas la réduire, ne pas la simplifier, accepter ses contradictions et l'accompagner. Et là, l'oppidum, c'est l'idée de la préservation aussi.
Super conclusion. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
Merci beaucoup, Chantal.
C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parler de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage, ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !